إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence maintenant le cours numéro 2. Dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq al-Qawim à la kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim, li Mukhalafat Ashab al-Jahim. Donc c'est un livre d'Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan. On est toujours dans l'introduction du livre. On a lu au dernier cours qu'est-ce qui avait rapport avec un court résumé sur la biographie de Ibn Taymiyyah et qui était Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et c'était quoi un peu sa vie. Maintenant, on rentre dans, yani on continue dans l'introduction et le Cheikh il va nous mettre dans le contexte du livre et nous expliquer de quoi le livre parle. Donc, après avoir compris un peu le contexte, ça va être plus facile pour nous de savoir justement de quoi le livre parle en détail. Et puis, on sera capable par la suite d'avancer dans le livre et de découvrir ce que contient le livre comme enseignement, comme explication, comme clarification. Et vous allez voir à quel point ce livre-là est un livre vraiment bénéfique, un livre très important pour les musulmans. Et comme je disais à la fin du cours, au dernier cours, et comme ce livre-là est un sujet vraiment important à notre époque, parce que c'est un sujet qui touche la situation des musulmans de façon internationale même, dans le monde. Parce que actuellement, on voit que les musulmans sont influencés et sont affectés par les koufars et par leur mode de vie et par leur façon de vivre, et qu'ils essaient de parfois les imiter sur tous les plans, le plan culturel, le plan sur le plan culturel, le plan scientifique, le plan économique, même parfois dans le plan religieux aussi, hein, et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait averti à ce sujet-là. Il avait dit qu'il y aurait, à une certaine époque, les gens, les musulmans allaient suivre les juifs et les chrétiens pas à pas, hein, jusqu'à ce que lorsqu'ils veulent rentrer dans le trou d'un lézard, eh bien, il a dit, vous allez les suivre dans le trou du lézard. Alors les sahabes ont dit, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens au messager d'Allah? Il a dit, qui d'autre? Donc c'est-à-dire, il nous a annoncé qu'il allait avoir une grande partie des musulmans qui allaient suivre les juifs et les chrétiens. Et puis, dans d'autres hadiths, il explique que ce n'est pas tous les musulmans qui vont s'égarer et qui vont suivre les juifs et les chrétiens, mais qu'il y aura toujours une portion de la Umma, un groupe de la Umma, qui est le groupe victorieux, qui restera toujours sur la vérité, victorieux. Et qui ne sera pas affecté, qui ne sera pas affecté par les musulmans qui s'opposent à eux ou qui les abandonnent. Donc, ayant dit cela maintenant, commençons tout de suite avec qu'est-ce que le cheikh ici explique. Il dit, donc il dit. فهو في الحقيقة كتاب يناسب كل وقت فكأنه كتب في وقتنا هذا وعنوانه اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أي أن الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هو الصراط صراط الله كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Donc le cheikh explique que ce livre que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit, c'est un livre qui correspond ou qui s'adapte à toute époque. C'est dans le sens que il est un livre qui correspond et qui peut s'appliquer à toutes les époques, parce que c'est une chose dont on va toujours avoir besoin de connaître. Connaître le droit chemin, puis de connaître ce qui oppose le droit chemin. Ça, c'est à toutes les époques qu'on en a besoin. Et quand on le lit, on a l'impression aujourd'hui qu'il avait été écrit pour notre époque aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on lit le livre d'Ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, c'est comme si on dirait que Ibn Taymiyyah était vivant parmi nous quand il a écrit ce livre-là. Hein? Comme s'il l'avait écrit pour nous aujourd'hui. Parce que ça s'applique tellement bien à ce qui est clarifié dedans. Et donc le titre, c'est pour dire que qu'est-ce qui est impliqué ou l'implication de suivre le droit chemin, c'est l'opposition et la contradiction des gens de l'enfer. Donc le cheikh explique que le droit chemin, c'est quoi le droit chemin? C'est le droit chemin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans son livre. Premièrement, il mentionne le verset 153 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui sont de chaque côté, les petits sentiers d'égarement, qui vont vous diviser et vous écarter de son chemin. » Donc, Allah nous ordonne de suivre le droit chemin et de ne pas nous diviser avec les petits sentiers qui nous amènent à l'égarement. Dans un autre verset, dans Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien nous demande de dire, nous enseigne comment l'invoquer et de dire, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui, de ceux sur qui tu as mis ta grâce, الذين أنعمت عليهم, et non pas le chemin de ceux qui ont reçu ou encouru ta colère, ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Donc ce chemin-là, c'est le chemin d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et certes tu guides à un droit chemin. Certes tu guides à un droit chemin. Le chemin d'Allah, celui à qui appartient les cieux et la terre. Et certes, c'est à lui que toute chose, c'est vers lui que toute chose avance, ou se dirige. Cheikh Al-Fawzan dit ensuite, فَاتِّبَاعُ هَذَا السِّرَاطِ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ هَذِهِ الْفِرَقَ الضَّالَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فالمسلم يطلب من الله أن يهديه إلى الصراط أي الطريق القويم وأن يجنبه طريق الضالين والمنحرفين عن صراطه فالمغضوب عليهم هم الذين أوتوا علما إلا أنهم لا يعملون بمقتضاه كاليهود. Donc le cheikh il dit de suivre ce chemin, ça implique qu'on doit contredire toutes les voies d'égarement et les sectes d'égarement. Et, comme c'est mentionné dans la sourate, on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah. Et non pas le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ni le chemin des égarés. Et yani, donc le cheikh il explique que le musulman il demande toujours à Allah qu'il soit guidé sur le droit chemin, c'est-à-dire le chemin qui est droit, as-sirat al-qawim, 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 ça veut dire le chemin qui est droit, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps de l'écarter des chemins des égarés, du chemin des gens qui ont dévié, du chemin de ceux qui se sont yani écartés du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence en donnant des explications par rapport aux deux groupes qui sont mentionnés dans Al-Fatiha, c'est-à-dire on parle de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah, ça c'est ceux qui sont sur le droit chemin. Puis après, il y a le chemin de ceux qui ont encouru la colère, al-mardoub alayhim. Qui sont al-mardoub alayhim? Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Le cheikh, il dit, ce sont ceux qui ont reçu la science, excepté qu'ils ne l'ont pas appliquée. Ils n'ont pas agi selon ce que cette science-là implique. Et ce sont les juifs. Ce sont al-yahoud, les juifs. فَإِنَّهُمْ كَانُوا كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَانُوا أَهْلُ كِتَابٍ وَأَهْلُ عِلْمٍ ولكنهم لم يعملوا بعلمهم والعياذ بالله فغضب الله عليهم ويشبههم كل عالم لا يعمل بعلمه. Donc le cheikh il dit que les gens qui ont reçu la colère d'Allah ou qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont ceux qui ont reçu de la science mais qui ne l'ont pas appliquée, hein? Ils n'ont pas agi selon ce que cette science-là impliquait de leur part, et c'est l'exemple des juifs qui ont agi comme ça. Parce que Allah les mentionne comme faisant partie des gens du livre. C'est-à-dire des gens qui ont reçu un livre, donc une science. Des gens qui ont de la science. Mais ils n'ont pas appliqué leur science. Wal'iyadhu billah. Que Allah nous en préserve. Et donc, à cause de cela, Allah s'est mis en colère contre eux. Et tous ceux qui leur ressemblent sont les savants qui n'agissent pas selon leur science, qui n'appliquent pas la connaissance que Allah leur a donnée. وَأَمَّا الضَّلُّونَ فَهُمُ النَّصَارَى الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ وَضَلَالٍ غَيْرْ نَاظِرِينَ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِعِبَادَتِهِمْ إِلَى دَلِيلٍ أَوْ سَنَدٍ وَيُشْبِهُهُمْ فِي ذَلِكَ كُلُّ عَابِدٍ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِثْلَ الصُّوفِيَّةِ الذين يجتهدون في العبادات والسلوك ومجاهدة النفس وليس لهم في ذلك دليل على ما يفعلون إلا استحساناتهم وأذواقهم ومواجيدهم وما تحدثهم به قلوبهم فشطحوا وضلوا وهذا مصير كل من يسير على غير هدى ودليل وحجة. Donc le cheikh il dit ensuite que en ce qui concerne ceux qui ont été égarés ou ceux qui se sont égarés, alors ce sont les chrétiens. Ce sont ceux qui adorent Allah, donc eux ils appliquent, ils font des actes, ils pratiquent, mais avec ignorance et égarement. Et ils ne regardent pas, la référence ou la source ou la preuve des adorations qu'ils font. Hein? Donc l'important pour eux, c'est pas est-ce que qu'est-ce qu'on fait c'est correct. Qu'est-ce qu'on fait il y a une preuve dans le Coran et dans la Sunna. Non, l'important pour eux c'est quoi? C'est juste on fait qu'est-ce qu'on ressent. Hein? Donc ils font beaucoup de choses de ce genre. Donc ça, ce sont les chrétiens. Et tous ceux qui leur ressemblent parmi les gens qui font partie des musulmans, même de ceux qui se disent musulmans, comme par exemple les soufis. Ils adorent Allah, mais sans science. Donc là, il y a une secte qu'on appelle les soufis dans l'islam. Ils se disent musulmans, ils pratiquent toutes sortes de choses, mais ils ne se basent pas sur des preuves. Hein? Donc tu les vois faire beaucoup d'efforts dans qu'est-ce qu'ils considèrent être de l'adoration, mais la plupart du temps c'est de l'innovation qu'ils font. Et donc le cheikh, il dit, ils font des efforts dans l'adoration, dans la conduite et dans le fait de lutter contre leur âme, comme ils disent, leur ego. Et finalement, ils n'ont aucune preuve du Coran et de la Sunna qui est authentique pour justifier ou supporter ce qu'ils font. Ils ne font se baser que sur ce que leur âme leur suggère, ou bien sur leur goût, ou sur leur sensation, comment ils se sentent quand ils font telle ou telle affaire. Et donc s'ils essayent des choses, puis ils disent, ah ça me fait sentir bien, ah ok, donc ça veut dire que c'est bon. Même si ce n'est pas supporté par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est des exemples, et ils se basent aussi sur leur cœur, qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur cœur, ou des choses de ce genre. Et à cause de ça, ils se sont égarés, ils ont dévié. Et tu trouves beaucoup de koufars qui sont attirés par ce genre de voie. Pourquoi, quand ils deviennent musulmans, ils rentrent dans le soufisme? Pourquoi? Parce que ils veulent suivre leur passion, ils veulent suivre leur désir, et donc ils veulent pas avoir de règles à suivre ou de principes stricts et clairs à suivre. Ils veulent être libres dans leur religion et suivre leurs désirs et leurs passions comme ils veulent. Donc, ils se sentent à l'aise dans les religions d'égarement comme le soufisme ou autre, parce que dans ces voies-là, tu peux faire ce que tu veux comme adoration, c'est correct. Personne ne va te critiquer ou te blâmer de faire ça. Hein, du moment que tu suis leur cheikh ou leur gourou, ça y est. Hein. Après, le cheikh, il dit « وَصَحِيحٌ ». Donc ces gens-là, ils suivent aucune preuve, aucune guidance et aucune évidence. صحيح أن الحديث في هذا الكتاب عن اليهود والنصارى، ولكن الأمر ينسحب على من نهج منهجهم، كما قال بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est vrai que ce livre parle en particulier des juifs et des chrétiens, mais l'affaire peut s'appliquer également à toutes les personnes qui ont suivi la même voie qu'eux. Donc ça veut dire que ça ne se limite pas seulement aux juifs et aux chrétiens, mais à tous ceux qui ont des ressemblances avec eux. Et c'est pour ça que certains parmi les salafs ont dit, et ça, Ibn Taymiyyah lui-même, il va le citer dans l'introduction de son livre, il dit que tous ceux parmi nos savants qui se sont égarés ont une ressemblance avec les juifs. Et tous ceux parmi nos adorateurs qui se sont égarés ont une ressemblance avec les chrétiens. Hein? Donc tous ceux parmi nos savants qui se sont égarés ont une ressemblance avec les juifs, parce qu'ils ont de la science mais ils ne l'appliquent pas. Et tous ceux qui se sont égarés parmi nos adorateurs, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup d'adoration et qui font des égarements, eh bien, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Pardon. Donc le cheikh Al-Fawzan nous dit ensuite, dit وَيَنْبَغِي لِمَنْ سَلَكَ هَذَا السِّرَاطِ أَنْ لَا يَحِيدَ عَنْهُ وَأَنْ يُخَالِفَ مَا عَدَاهُ. ولقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وجليا. ففي الحديث المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا موافق لقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc le cheikh, il dit que pour celui qui suit ce chemin, il ne faut pas qu'il s'en écarte, il ne faut pas qu'il dévie de ce chemin, et il doit contredire toute voie qui s'oppose à ce chemin d'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué de façon claire, hein, dans le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad et par An-Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Donc il dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne droite. Puis il a dit, ça c'est le chemin d'Allah. Donc il leur a donné une représentation pour qu'ils puissent comprendre encore plus clairement la question. Donc il a tracé une ligne droite sur le sol. Il a dit, ça c'est le chemin d'Allah. Puis qu'est-ce qu'il a fait ensuite? À gauche et à droite de ce chemin, il a tracé des petits traits, hein, de chaque côté. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est les petits chemins, les petits sentiers. Et ce sont des sentiers divisés. Et à la tête de chacun de ces petits sentiers, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Puis il a récité le verset 153 dans Sourate Al-An'am qui dit, et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les autres sentiers qui vous diviseront de son chemin. Sourate Al-An'am, les bestiaux. Donc le cheikh il dit, ولقد جاء اسم الكتاب اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم موافقا لكل من الآية والحديث فالذي يسلك هذا الصراط يجب عليه أن لا يلتفت إلى هذه الطرق وهذه السبل الكثيرة. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, donc le titre du livre d'Ibn Taymiyyah, il est venu pour comme en accord total avec ce que implique ce hadith et ce verset du Coran. Il explique clairement qu'est-ce que signifie ce verset et ce hadith. C'est-à-dire que l'implication de suivre le droit chemin, ça, c'est de contredire les gens de l'enfer ou les compagnons de l'enfer. Donc celui qui suit ce droit chemin, il est obligatoire pour lui qu'il ne dévie pas de ce chemin-là vers les petits sentiers ou vers les voies nombreuses qui sont des voies d'égarement. نعم. Ensuite il dit, ثم انظر أيها المسلم كيف أن الله وحد الصراط المستقيم وعدد السبل المخالفة له فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لأن هذه السبل كثيرة لا يمكن حصرها فالناس مختلفون في طرقهم وقناعاتهم لإعجاب كل ذي رأي برأيه فكل جماعة تظن أن طريقها صحيح قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فالسبل كثيرة ومتفرقة لا تنتهي وأما هذا الصراط فهو واحد لا يتعدد أبدا وهو كذلك منذ بدء الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو صراط الله ومنهج الأنبياء قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسير على هذا الصراط المستقيم والنهج القويم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, regarde ô musulman, comment Allah subhanahu wa ta'ala a unifié ce droit chemin, dans le sens qu'il a mentionné ce chemin-là comme étant singulier, comme étant un unique chemin. Et regarde comment il a mentionné au pluriel les sentiers d'égarement qui opposent et qui contredisent ce chemin que Allah nous a ordonné de suivre. Parce que Allah il dit « وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا » C'est un seul chemin qui est droit. « وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلُ » Subul, c'est le pluriel de sabil. Sabil, c'est un chemin. Subul, c'est le pluriel, ça veut dire des chemins. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Donc, ces nombreux chemins, as-subul al-kathira, il y en a beaucoup de petits sentiers, de petits sabils. Il n'y en a pas de limite même. C'est-à-dire que le nombre de ces sentiers d'égarement sont à l'infini. Il y en a tellement que tu ne peux pas les compter, tu ne peux pas les limiter, tu ne peux pas les calculer. Et les gens, dans leur divergence et dans leur voie, ils sont très nombreux. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sentiers d'égarement. Chacun est ébloui par son propre opinion, par sa propre voix, par son propre opinion, qu'est-ce qu'il pense. Et chacun prétend, ou chaque groupe prétend, que sa voix qu'il suit, c'est la voix qui est correcte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, il dit « وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » C'est-à-dire, chaque groupe se réjouit de ce qu'elle possède avec elle, ou avec lui. Chaque groupe se réjouit de ce qu'il possède avec lui. Donc, les nombreux sentiers, et ils sont nombreux et ils sont divisés. Chacun est contredit l'autre. Et il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite au nombre de ces sentiers-là. Tandis que le droit chemin, c'est un chemin unique et un seul chemin qui ne se multiplie pas, qui ne se divise pas. Hein? Et il est ainsi depuis le début de la création jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala hérite de la terre et de ce qui est dessus. Donc, jusqu'à la fin des temps, il sera un seul sentier et un seul sentier unique. Il n'y a pas plusieurs chemins. C'est pas comme certains parmi les égarés qui disent l'important c'est pas la religion que tu suis, c'est l'important c'est que tu arrives à Dieu. Et tous les chemins peuvent t'amener à Dieu. Ça c'est de l'égarement. C'est ça ce que les gens des fausses religions enseignent. Qu'il y a plusieurs religions, qu'il y a plusieurs voies pour arriver à Dieu, que chacune de ces voies-là est bonne. Ça c'est faux. Il y a un seul chemin qui amène à Dieu, c'est l'islam, c'est la voie du tawhid, de l'unicité d'Allah, la voie des prophètes, c'est un seul et même chemin. Depuis que Allah a créé les hommes, depuis que Allah a créé la terre, jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais qu'une seule voie et un seul chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre chemin t'amène vers l'égarement. Et donc, le cheikh il dit, donc c'est le chemin d'Allah, c'est le chemin des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69, dans Surat al-Ahzab, et ici c'est une erreur de c'est pas dans le Surat al-Ahzab, ce verset, c'est dans Surat al-Nisa, dans Surat al-Nisa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Nisa, celui qui obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là sont avec ceux qui ont reçu la grâce d'Allah sur eux, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les témoins et les hommes pieux. Ceux-là, hein, quelle belle compagnie ils sont. Quelle belle compagnie ils sont. Donc il faut, si tu veux être parmi ceux qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu dois être parmi ceux qui suivent ceux-là. 69. An-Nisa 69. Parce que je pense que dans le... ils ont écrit le nom de la mauvaise sourate, mais le numéro du verset, il est correct. C'est le verset 69. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits et qui ont reçu sa grâce. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc c'est ça le verset en question. Donc c'est eux, ceux sur qui Allah a mis sa grâce dans Surat al-Fatiha, c'est ceux-là. Ceux que Allah mentionne dans le groupe qu'on doit, du chemin, ceux qui sont sur le chemin qu'on doit suivre, c'est le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah, c'est ceux-là, c'est ces quatre groupes. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, les vertueux, c'est leur chemin à eux qu'on doit suivre, c'est le chemin d'Allah. Et il dit, le cheikh, il fait un doua, et il dit, on demande à Allah qu'il nous mette sur le chemin, qu'il nous mette avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui suivent ce droit chemin et cette voie qui est droite. Naam. Ensuite, le cheikh, il dit, wa mimma yalmahuhu al-qari. ومما يلمحه القارئ من خلال اسم الكتاب أنه يهتم بأمر في غاية الأهمية وهو أمر طالما أكد عليه القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه وهو تمييز هذه الأمة من غيرها من الأمم وتميزها بدينها وبكتاب ربها وبسنة نبيها وبعقيدتها وعبادتها ومعاملاتها وأخلاقها فالله جل وعلا أراد لهذه الأمة أن تتميز عن غيرها من الأمم، لأنها هي الأمة القدوة التي جعلها الله أمة وسطا، وهي التي تشهد على الأمم الأخرى يوم القيامة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc le cheikh il dit, le lecteur va constater à travers le titre de ce livre que c'est un livre qui se concentre et qui donne de l'importance à une chose qui est extrêmement importante et une chose qui est confirmée à travers le Coran et qui a été expliquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les hadiths qu'il a rapportés et qu'il a mentionnés, et c'est la distinction de cette umma par rapport aux autres. C'est-à-dire que cette umma, elle est distinguée et elle se distingue. Elle se distingue des autres par sa religion, par le livre de son Seigneur, par la sunna de son prophète, par sa aqida, par sa croyance, par son adoration, par ses interactions avec les autres, comment les règles qui gèrent et qui régissent la façon dont on doit agir avec les autres et interagir avec eux, et par le comportement de cette nation aussi. Donc elle doit se distinguer dans tous ces aspects-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette umma soit distinguée de toutes les autres nations. Et c'est pour cette raison-là que cette nation, cette umma de l'islam, elle est un modèle et un exemple à suivre pour toutes les autres. Parce que c'est la umma que Allah a déclarée comme étant au juste milieu. C'est elle qui est la meilleure d'entre les nations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne de cela, et c'est pour ça qu'au jour de la résurrection, cette nation, cette umma, la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera témoin pour toutes les autres nations au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 143, dans Surat al-Baqarah. Il dit: c'est ainsi que nous avons fait de vous la meilleure nation, la nation de l'équilibre et de la modération, du juste milieu, pour que vous soyez des témoins pour les hommes et pour que le messager soit témoin contre vous. Donc ça c'est 143 dans Surat al-Baqarah. Et l'autre verset, c'est le verset 110 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit: vous êtes la meilleure nation qui est venue pour les hommes, qui est sortie pour les hommes. Pourquoi vous êtes la meilleure nation? Parce que vous ordonnez le bien, parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Hein? Donc le cheikh il dit: فهذه المكانة تقتضي أن تتميز هذه الأمة عن غيرها ولا تذوب في الأمم الأخرى لأنها أمة قائدة ورائدة فلا بد أن تكون لها شخصيتها وهويتها المتميزة عن سائر الأمم. Donc le cheikh il dit: Cette place que cette umma a atteint et ce statut qu'elle a implique d'elle qu'elle se distingue des autres ummas et des autres nations. Elle ne doit pas fondre parmi les autres nations parce qu'elle est la nation qui doit, disons, diriger les autres et être à la tête des autres pour l'orienter, pour la guider, servir de modèle aux autres nations. Donc elle ne peut pas se mélanger ou devenir fondue parmi les autres peuples et imiter les autres peuples et être comme les autres peuples qui n'ont pas la guidance. Il faut qu'elle ait sa propre personnalité et sa propre identité et qu'elle se distingue par cette identité-là de toutes les autres nations. لا سيما الأمتين المغضوب عليهم وهم اليهود والضالون وهم النصارى. Et en particulier les deux nations, c'est-à-dire qu'elles se distinguent des deux nations ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Les premiers, c'est les juifs, et les deuxièmes, c'est les chrétiens. Donc, en particulier, ils doivent se distinguer de ces deux nations-là. La nation des juifs, la nation des chrétiens. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, parce qu'ils avaient la science, mais qu'ils ne l'ont pas appliquée, et ceux qui se sont égarés du droit chemin parce qu'ils n'avaient pas de science. وإنما صار اليهود مغضوبا عليهم لأنهم أعطوا علما ولكنهم لم يعملوا به وكل من اتصف بهذه الصفة من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم أو أولئك الذين يشترون به ثمنا قليلا ويكتمونه فإن هؤلاء جميعا قد استوجبوا غضب الجبار عليهم. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui sont devenus comme il dit que les juifs sont devenus mardoub alayhim, c'est-à-dire ils ont reçu la colère d'Allah sur eux. Pourquoi? Yani, c'est pas juste comme ça parce qu'ils sont juifs, Allah les a détestés. Non, il y a des raisons pourquoi Allah les a détestés. Et c'est parce que Allah leur a donné une science, leur a donné la connaissance, il leur a envoyé combien de livres, combien de messagers, combien de prophètes. Et ils ont pris cette science-là et ils ne l'ont pas appliquée. Et ils ont pris ces livres et ils les ont jetés derrière leur dos. Et donc, toute personne qui a cette caractéristique parmi les ulama, c'est-à-dire parmi les musulmans, ou bien les gens qui ont de la science, mais qui ne l'appliquent pas cette science, ou bien qu'ils ont la science mais qu'ils la cachent pour un prix, hein, parce qu'on les paye, ils se taisent, ils ne disent pas la vérité, ils cachent la vérité. Alors, tous ceux-là, ils ont fait ce qui nécessite sur eux, qui oblige qu'Allah soit en colère contre eux. Et un des noms d'Allah, c'est Al-Jabbar. Hein? Donc, Al-Jabbar est en colère contre eux. Hein? Et Al-Jabbar, c'est celui qui est contraignant, qui est fort, qui est puissant. Donc, le cheikh, il dit ensuite... أضف إلى ذلك أو ألف إلى هؤلاء قسما آخر وهم الذين يهملون العلم الشرعي لا يسعون إليه وفي حين أنك تجدهم يبالغون في العبادة ونعني بذلك النصارى الذين ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم وليس لهم بها برهان وإنما اتبعوا ما تميله عليهم ما تميله عليهم رغباتهم واجتهاداتهم وعلى غرار هؤلاء الصوفية الذين نحوا هذا المنحة فهم يجتهدون في العبادات ولا يهتمون بالعلم الشرعي حتى إنهم يزهدون الناس فيه ويقولون إن طلب العلم يشغل عن العبادة لذلك فهم يحذرون من طلب العلم والجلوس إلى العلماء ويحرصون على مزاولة طقوس وعبادات لم تؤسس على علم سبحان الله وهل تكون العبادة صحيحة بغير علم فهم كما ذكر أشبه ما يكون بالنصارى الذين قال تعالى بحقهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ومع هذا فهم لم يقوموا بها كما وصفهم الله تعالى بقوله فما رعوها حق رعايتها. Donc le cheikh il explique ici, tu peux rajouter à cette catégorie qu'on a mentionnée une autre catégorie qui est la catégorie de ceux qui négligent la science. La catégorie de ceux qui négligent la science de la charia. Hein? Et ils ne font aucun effort pour l'obtenir. Ils ne font aucun effort pour obtenir la science de la religion. Alors que tu les vois faire beaucoup d'efforts dans l'adoration et dans la prière et dans le dhikr, dans d'autres aspects de la religion, hein? De manière parfois innovée, alors qu'ils ne donnent aucune importance à la science. Et l'exemple de ça, c'est l'exemple des chrétiens. Qui ont inventé même qu'est-ce qu'on appelle le monachisme, c'est-à-dire le fait de faire des monastères, puis d'habiter dans des monastères, comme des moines, hein, et de se cloîtrer, comme des religieuses. Ils se mettent dans des endroits fermés, cloîtrés, où ils prétendent qu'ils ne font que prier et adorer Dieu jour et nuit sans arrêt. Et ils se coupent complètement de la société et de la vie. Hein, ils ne se marient pas, ils vont juste prier et adorer Dieu tout le temps. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Et il n'y a pas de doute également que Allah ne leur avait jamais ordonné ni prescrit de faire ce genre de choses-là. Et ils n'avaient à ce sujet-là aucune preuve venant d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont fait que suivre ce que leur passion et leur désir leur encourageaient de faire. Hein, ils ne se sont basés que sur leurs désirs et sur leurs efforts. Les efforts qu'ils ont voulu faire, qui sont des efforts d'extrémisme et d'exagération. Et parmi ceux qui ont été trompés justement par ça, c'est l'exemple de, parmi les musulmans, de ceux qu'on appelle les soufistes, hein, ou les soufis, ou les mutasawwifa. Ceux qui ont suivi donc la même voie que la voie des chrétiens, hein, dans la question de l'adoration. Donc ils font beaucoup d'efforts dans l'adoration, mais ils ne donnent aucune importance à la science de la charia. Et c'est pour cette raison-là que tu les vois, ils essaient d'écarter les gens et d'éloigner les gens de la quête de la science et du savoir. Et donc, ils prétendent que de chercher la science, c'est quelque chose qui te distrait et qui t'éloigne, hein, de l'adoration. Et donc, eux, ils découragent les gens de faire de l'adoration, de la quête de la science plutôt, et de chercher le ilm, et d'aller étudier l'islam, et de s'asseoir avec les ulama, hein, un peu comme les groupes, les gens qu'on appelle Jama'atut Tablir, hein, à notre époque. Ces gens-là sont des soufis, hein, et les fondateurs de Jama'atut Tablir sont des soufis. Donc tu les vois, ils disent, nous on fait la da'wah, on s'en va, on reste dans la mosquée, et on lit, on parle un peu de religion, des choses comme ça. Donc ils parlent de religion sans science, ils n'enseignent pas aux gens les fondements de l'islam, et le tawhid, et les bases de la religion, ils n'enseignent pas aux gens le fiqh, et le tafsir, et la aqidah, et les fondements de l'islam, ils ne font que leur apprendre des choses, hein, qui sont des choses qui ne sont pas fondamentales, ou primordiales, ou les bases de la religion, juste certains éléments de la sunna qu'ils leur enseignent, et après le reste, ils les amènent comme ça de gauche à droite, partir dans des différents pays, et puis après, ils prétendent qu'ils font la da'wah. Alors que la da'wah, c'est pour les ulama, c'est pour les savants. C'est les savants qui font la da'wah, et non pas les ignorants. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des sahaba qui ont du ilm pour parler de l'islam, pas des ignorants. Hein, pas des gens qui viennent de commencer à pratiquer l'islam et du moment ils peuvent commencer à parler et expliquer, non. Donc ça, c'est l'égarement de ces gens-là. Et quand ils voient des gens qui s'assoient avec les ulama ou qui assistent à des cours, qui apprennent leur religion, ils les dénigrent. Ou bien ils leur disent, ça c'est pas important, c'est pas la science qui est importante, c'est la pratique. Tout ça, c'est des exemples d'égarement. Hein, et les soufis, hein, ils sont comme ça. Et en fin de semaine, justement, ou bien plus, c'était oui samedi, on a fait le cours sur la aqida des deux imams, l'imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Abu Zur'a al-Razi. Et dans la biographie de l'imam Abu Zur'a, il y avait une parole de l'imam Ahmad qu'on a lu, qui parlait de l'imam Abu Zur'a, et au moment où je l'ai lu, je ne l'avais pas bien comprise. Mais après, je l'ai relu par la suite. Et j'ai demandé à certains frères qui traduisent également, et je leur ai montré cette parole, et juste au moment où je leur ai montré, la signification m'est venue en même temps. Donc, alhamdoulillah, ça disait quoi? Ça disait que le fils de l'imam Ahmad, il dit, mon père, quand Abu Zur'a venait le visiter, il habitait chez nous, il le faisait habiter chez nous. Donc Abu Zur'a venait et il habitait dans la maison de l'imam Ahmad. Et ils faisaient de la revision des hadiths ensemble. Et l'imam Ahmad a dit, je n'ai prié que les prières obligatoires. Parce que je préfère faire des revisions du hadith avec Abu Zur'a. C'est-à-dire que les ulama, ils considèrent que c'est important de prier la nuit, de faire des prières surérogatoires. Mais la quête de la science et du savoir, et la revision des hadiths et de la science, c'est meilleur comme adoration surérogatoire que de faire des prières la nuit ou de faire des nawafil. Et ça, c'est quelque chose beaucoup de gens ignorent. Et c'est pour ça que des fois, quand on était en train de suivre des durous avec des ulama, quand c'était le temps de, par exemple, du adhan, les mashaykhs, ils s'arrêtent pour le adhan, et après le adhan, ils recommencent, c'est-à-dire ils continuent le dars jusqu'à l'iqama. Et tu vois personne se lever pour faire deux rak'at. Alors les gens, ils posent la question parfois, mais pourquoi ils ne se lèvent pas pour faire rak'atain? Rak'atain, c'est sunna. C'est une bonne action de faire ça. Pourquoi on n'applique pas la sunna? Alors, les mashaykhs, ils expliquent, ils disent, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De faire le dars et d'enseigner la science et d'écouter la science, c'est meilleur comme acte surérogatoire que de faire rak'atain. Ça a plus de valeur et c'est plus important et c'est plus bénéfique et c'est meilleur que ces actes surérogatoires-là. Donc, ils préféraient la science de chercher le ilm et d'apprendre la religion de l'islam que, yani, uniquement de faire des nawafil. Parce que, pourquoi? Quand tu fais les nawafil, tu pries par exemple les rak'at la nuit ou le jour, surérogatoire, c'est du bien que tu fais pour toi-même. Tandis que quand tu étudies la science, c'est pas seulement pour toi-même. Il y a un bien qui en sort pour tous les musulmans par la suite. Parce que cette science-là, tu vas l'appliquer, tu vas l'enseigner à d'autres. Et donc, ça va être un grand bien pour les musulmans, pas seulement pour toi. Hein? Donc ça, c'est quelque chose, des fois, les gens, ils dénigrent la science, ils dénigrent le ilm, et ils pensent que de faire des adorations surérogatoires, c'est meilleur que le ilm. Non, c'est pas vrai. La quête de la science, c'est meilleur et plus bénéfique que les prières surérogatoires. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed disait, je n'ai pas fait d'autres prières que les prières obligatoires, parce que je préfère faire la revision de la science. Hein, muzakaratul ilm. Donc ça, c'est une parole très bénéfique et très importante à ce sujet-là. Ensuite, donc c'est ça, les soufis, ils n'aiment pas la science, et c'est rare, tu vas les voir. C'est rare que tu vois des musulmans qui ont été élevés dans un milieu soufi et qui ont été encouragés par le soufisme ou éduqués dans une société où il y a du soufisme. C'est rare, très rare que tu vas les entendre ou que tu vas les voir parler de ilm ou s'asseoir dans les durus des ulama. Très rare. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Hein? Et c'est pour ça, des fois, ils voient le programme des cours qu'on a. Ils disent, mais c'est quoi ces cours-là? C'est quoi ces livres-là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier, vous? Pour eux, la science, c'est juste mémoriser le Coran. Tu mémorises le Coran, ça y est, c'est fini. C'est ça, avoir la science. T'es hafif Coran, ça y est, t'es un alim pour eux. Tu connais pas la aqidah, tu connais pas le fiqh, tu connais pas le tafsir, tu connais pas l'aqidah, rien. Tu connais pas le hadith, non, c'est pas grave. T'es hafif Coran, t'es alim. Et si tu connais le tajwid, tu sais comment réciter bien, c'est le top. Non, c'est pas ça la science. Yani, subhanallah, peut-être quelqu'un ne sait même pas réciter bien avec le tajwid, mais c'est un savant de l'islam. Hein? Eux, ils ne comprennent pas ça. Naam, donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit, donc, ils veulent juste pratiquer certaines formes de rituels qu'ils ont appris, et des adorations qu'ils font qui ne sont même pas supportées et fondées sur aucune science, hein, et subhanallah, tu les vois faire ça. Et le cheikh, il dit, subhanallah, est-ce que tu peux faire une adoration correcte sans avoir de la science? C'est pas possible, hein? Donc ils ont une ressemblance aux chrétiens dans ça. Je me rappelle une fois, yani, subhanallah, il y a un tabliri, il m'a vu, un gars de Jamaat Tablir, il m'a vu. Il m'a dit, ah, il y a des gens, ils ont beaucoup de science, mais ils ne pratiquent pas l'islam. J'ai dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont de la science, mais qui ne pratiquent pas l'islam. Mais ceux qui n'ont pas de science et qui font des égarements et des bid'ah sont plus nombreux encore. Et je lui disais, j'ai dit, vous allez par exemple en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, ou dans ces autres pays-là, vous voyez les musulmans qui rentrent dans des mosquées où il y a des tombes, et ils adorent les morts, et ils prient les morts, et vous leur dites rien, et vous les appelez à faire la prière, qu'est-ce que ça va faire pour eux la prière s'ils font du shirk? Ils vont mourir sur le shirk, et ils font la prière, leur prière n'est même pas acceptée. A'oudou billah. Donc là, il disait, oh mais non, ça c'est pas, c'est une petite minorité. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas une petite minorité, ils vont là-bas par millions. Hein? Et à Montréal, ils ont une mosquée, les gens de Tablir, hein, du Bangladesh, ils ont une mosquée qui s'appelle la mosquée Shah Jalal. Et Shah Jalal, si tu regardes, tu fais une recherche même sur Google, tu vas le voir, Shah Jalal, c'est un de leurs chouïrs soufis qui venait du Yémen, qui est mort là-bas. Ils ont fait une mosquée sur sa tombe. Et ils l'adorent aujourd'hui là-bas. Ils prennent sa mosquée comme un lieu d'adoration. Sa tombe comme un lieu d'adoration. Ils l'adorent en dehors d'Allah. Ils font le shirk avec lui là-bas, dans cette mosquée. Donc ça, c'est à quoi ça sert? Tu vas appeler les gens à faire la prière à la mosquée, à aller faire tablir avec eux. Mais après, ils continuent à faire le shirk. Ça sert à quoi? Hein? Subhanallah, je me rappelle dans la mosquée de Jamaat Tablir, ici même à Montréal, il y a un gars qui était avec eux, pratiquait la religion de Tablir, hein? À ICQ à l'époque. Maintenant c'est Al-Madani, la mosquée de Tablir, maintenant ils ont déménagé. Mais le gars, il avait plein d'amulettes accrochées sur ses bras, autour de sa taille, des poches avec des amulettes dedans. Et puis il était là dans la mosquée, personne ne lui disait rien. Personne ne lui disait, « Yahri, ça c'est shirk, qu'est-ce que tu portes là, qu'est-ce que tu fais ?» Personne. Allah musta'an. Yahri, prie. Si tu pries la nuit, c'est bien. Mais... Ouais. Non, ça se peut que... Il y a des gros comme ça, des gens qui font des actes là, la nuit, ils prient en dehors du Ramadan. C'est pas le Ramadan. Mais ils font des prières en groupe sur un rogatoire la nuit. Et ils appellent ça des veillées ou des trucs comme ça. Ils font ça, même les ikhwan, ils font ça aussi. Et ça, c'est des bid'ah, c'est une innovation. Il n'y a pas de prière en groupe la nuit en dehors de Tarawih dans le Ramadan. Si quelqu'un fait des prières la nuit en groupe dans la mosquée en dehors du Ramadan, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Ça, c'est pas légiféré. Donc, le cheikh, il dit... Ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, c'est-à-dire les chrétiens, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. C'est le verset 27 dans Surat Al-Hadid. Verset 27 qui dit, et le monachisme. Le monachisme, c'est quoi? Le monachisme, c'est les monastères là, qu'ils ont inventés. Oui, les moines. Allah parle des chrétiens. Il dit, et le monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons nullement prescrit. C'est-à-dire, Allah ne leur avait pas prescrit de faire ça. De faire des endroits, des monastères, où les hommes restent, les moines, et ils prient seulement. Ils jeûnent, ils prient. Et même parmi les moines chrétiens, Allah musta'an, tu les vois, il y en a parmi eux qui se flagellent. C'est-à-dire, ils se frappent avec des fouets, eux-mêmes, pour se faire souffrir. Il y en a même aussi parmi les chiites et parmi les soufis qui font ça. Ils se frappent comme ça, hein? Ils se fouettent eux-mêmes, comme si pour punir leur corps des désirs qu'ils ont ou des sensations. C'est parce que des fois, peut-être que parmi eux, il y en a qui ont des désirs. Hein? C'est normal, on est des êtres humains. Donc, si tu restes comme ça, tu te maries pas, t'as pas de femme, et toi, tu commences à avoir des envies. Là, tu commences à te fouetter pour enlever ces désirs-là. Hein? Donc ça, c'est des gens qui vont contre la nature. Il y en a même qui s'accrochaient sur eux des trucs avec des crochets qui rentrent dans leur chair pour se faire mal, yani, pour sentir la douleur. Hein? Et tu trouves ça chez les hindous, chez les bouddhistes. Hein? Ils s'accrochent avec des crochets puis ils rentrent ça dans leur peau. Auzubillah, yani. Ça, c'est le verset 27 dans Surat Al-Hadid, le fer. Donc, Allah ne leur a jamais prescrit ça. Et les femmes aussi. Les femmes chrétiennes faisaient la même chose. Hein? Elles vivaient dans des monastères. Il y en a des monastères cloîtrés, c'est-à-dire elles sortent jamais. Et elles ne voient jamais quelqu'un de l'extérieur. Jamais. Hein? Subhanallah. Quand elles meurent même, elles se font enterrer à l'intérieur. Subhanallah. Donc c'est pour dire comment ces gens-là sont extrêmement égarés. Il n'y a personne qui peut les libérer de ça sauf l'islam. Donc, na'am. Donc Allah il dit ça, puis après il dit, et malgré, il dit, وَمَعَ هَذَا فَهْمٌ لَمْ يَقُومُ بِهَا. C'est ma, yani, مَعَ هَذَا فَهُمْ لَمْ يَقُومُ بِهَا. C'est malgré qu'ils ont fait ça et que Allah, yani, c'est eux qui l'ont inventé, et Allah ne leur avait pas prescrit, mais malgré tout, ils ne l'ont même pas respecté comme ils devaient le faire. Hein? Et ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. Allah dit, ils devaient uniquement chercher l'agrément d'Allah, mais ils sont allés trop loin, ils ont exagéré. Mais ils ne l'observèrent pas comme ils se devaient. Ils n'ont pas observé ça comme ils le devaient. Donc, le cheikh, il dit ensuite, فَهَذِهِ هِيَ سُنَّةُ اللَّهِ أَنَّ مَنْ غَالَ فِي الْعِبَادَةِ وَاشْتَدَّ فِيهَا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعْ وَيَعْجَزْ كما قال صلى الله عليه وسلم فإن المنبتة فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وهذه هي طريقة النصارى والمتصوفة الذين يتشابهون معهم في زهدهم في العلم وغلوهم في العبادة حتى وجد منهم من يقول إن العلم يأتيك بدون تعلم وإنما يفتح عليك إذا اجتهدت في العبادة والذكر فحينها تأتيك فيوضات بل إن غلاتهم يقولون إننا نأخذ من الله مباشرة ولا نحتاج إلى الرسل ولا إلى الكتب وهذا إنما هو نتيجة الإعراض عن تعلم العلم النافع المبني على الدليل من الكتاب والسنة والذي يعصم الله صاحبه الزلل يورث العمل الصالح. أي نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit donc ça c'est la règle d'Allah. Ça, c'est la règle d'Allah dans sa création. Que toute personne qui exagère et devient extrémiste dans l'adoration, et qui l'exagère et qui dépasse la limite dans l'adoration, eh bien, à la fin, il commence par couper. Il s'arrête. Il ne peut plus. Hein, à un moment donné, là, il n'est plus capable. Hein. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith rapporté par Jabir. C'est rapporté par Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. Et par Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, selon Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, il dit, celui qui essaie d'aller trop loin, trop vite, eh bien, il ne va pas être capable de faire une longue distance, et sa monture, il ne pourra pas la garder non plus. Hein? C'est comme si tu as on va dire que tu as un animal, une monture, un cheval ou un chameau. Tu le fais voyager jour et nuit, sans arrêt, et que tu ne t'arrêtes même pas pour te reposer, ben, tu ne vas pas faire un long chemin. Et puis en même temps, ton animal ne va pas durer, il va mourir. Parce qu'il a besoin de repos, et toi aussi. Et donc ça, c'est l'exemple de la personne qui exagère dans l'adoration. Il dit donc que ça, c'est la voie des chrétiens et c'est la voie des soufis, ceux qui ressemblent aux chrétiens dans leur écartement de la science et dans leur exagération dans l'adoration, à un tel point que il y en a parmi eux qui ont dit, nous, la science nous vient sans qu'on apprend. C'est-à-dire, on obtient la science sans qu'on ait besoin de l'étudier ou de l'apprendre. Hein? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de la science uniquement en faisant de l'adoration et du dhikr. Hein? On fait du dhikr et de l'adoration à la façon des soufis, et ça nous descend comme une émanation divine qui coule sur nous, comme ça, sans même qu'on étudie des livres, sans même qu'on apprend, sans même qu'on s'assoie dans les durus, pas besoin. Hein? Ça vient, Allah il nous envoie cette science directement sur nous. Et parmi les extrémistes d'entre eux, parmi les extrémistes, parmi les soufis, il y en a même qui disent, nous, on prend la science directement de Dieu. Hein? On n'a pas besoin de messagers, on n'a pas besoin de livres. Hein? C'est comme s'ils se prennent pour des prophètes. Dieu leur parle directement. Hein? Donc, ça, c'est le résultat de ceux qui se détournent de la science. Hein? Et la science qui est bénéfique, qui est basée sur la preuve qui est tirée du Coran et de la Sunna, et qui préserve et qui protège quelqu'un qui l'acquiert de tomber dans les égarements, et qui lui fait hériter des bonnes œuvres, et qui va faire des bonnes œuvres à la suite de ça. Donc le Cheikh il dit Wallahu Jalla wa ala hadharana min suluk al-tariqain. Hein? Ça c'est un exemple aussi, par exemple, par rapport à la science qu'ils ont mentionné. Même parmi leurs chouyours, des soufis, il y en a qui disaient, moi je monte, je vole jusqu'en haut des cieux, et je vais voir dans l'Lawh al-Mahfouz, la table préservée où Allah a écrit la destinée de tout l'univers, de toute la création, et je lis dedans, et c'est là que je prends ma science. Après je reviens sur la terre. Maintenant, parmi leurs soufis, dans leurs livres, ils ont écrit des choses comme ça. Et si tu veux, je te ramènerai la référence exacte avec le livre et la page. Inch'Allah. Donc ça, c'est des exemples. Parce que les soufis, à chaque fois que tu dis quelque chose à leur sujet, ils disent « Ah ouais, où est-ce que tu as lu ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a pas dit ça. » Là, on a le livre avec la page, et le nom du livre et la page. Si tu veux, je te l'amène. Comme ça, tu vois que ce n'est pas des choses qu'on a inventées sur les soufis. C'est les soufis eux-mêmes qui le disent dans leurs livres. Et ils se vantent de ça. Ils sont fiers de ça. A'udhu billah. Hein? Donc, Allah al-Musta'an, akhi. Après, il y en a parmi les tablirs, ils disaient ça à des gens qui sont convertis. Ils disaient, t'as pas besoin d'aller étudier l'islam. Il y en a un qui était accepté à Médine pour aller étudier. Lui, on dit, t'as pas besoin d'aller à Médine. Il a dit, la lumière de Médine et de la Mecque, Allah il l'a enlevé et maintenant il l'a mis en Inde maintenant. Donc si tu veux avoir la science, viens avec Jamaat Tablir et là tu vas aller fisabilillah, tu vas avoir la science. Hein, tu fais le khuruj avec nous, tu sors avec nous, tu vas avoir la science. Pas besoin d'apprendre. Il a dit une fois il y a une Jamaa qui était venue, ils ne parlaient pas l'arabe. Ils sont venus avec nous, puis tout d'un coup ils ont vu une lumière qui est descendue, puis là tout d'un coup ils écoutaient le bayan en arabe, ils comprenaient tout. D'un seul coup comme ça, pas besoin d'étudier. Hein? La science elle descend comme ça tout d'un coup. Et là les autres qui sont là, naïfs, ignorants, ils disent, ah oh, subhanallah, waouh, c'est vrai, pas besoin. Tu le retrouves 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, encore ignorant comme l'âne, hein, comme un âne, il ne sait rien, il ne sait ni lire l'arabe, il ne sait même pas écrire, il ne sait pas parler, il ne comprend pas. Et un étudiant dit, subhanallah, ça fait combien d'années que tu es musulman? Jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore appris l'arabe? Jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore étudié le Coran et la Sunna? Tu ne connais pas le tawhid? Tu ne connais rien? Ahi, moi, je sortais fisabilillah, et donc, j'avais pas le temps d'apprendre la science. A'udhu billah. Donc, ça, ce n'est pas sortir fisabilillah, ça. Ça, c'est sortir fisabilillah shaitan. Hein? Eux, ils sortent fisabilillah shaitan, ils ne réalisent pas. Ils sont dans le chemin du shaitan, pas dans le chemin d'Allah. Hein? Donc le shaykh il dit ensuite, il dit Wallahu jalla wa ala حذرنا من سلوك الطريقين وأمرنا بسلوك الطريق الوسط فقال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين معا ولم يبعث بأحدهما وكل من سلك هذا المسلك ونهج هذا المنهج فإنه يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc mis en garde contre ces deux voies et nous a ordonné de suivre un seul chemin qui est le chemin du juste milieu. Et Allah nous a dit donc guide-nous sur le droit chemin. le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et non plus le chemin de ceux qui se sont égarés ou déségarés. Donc ceux sur qui Allah a mis sa grâce, ils ont réuni entre la science bénéfique et les bonnes œuvres. La science bénéfique et les bonnes œuvres. C'est les deux ensemble. Hein? Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec comme message. C'est ça qu'il a reçu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme message et comme religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset 33 dans surat At-Tawbah, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité. Hein? Et le cheikh explique que la guidance, Al-Huda, c'est la science bénéfique. La guidance, c'est la science bénéfique. Et Ad-Din Al-Haq, la religion de vérité, c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. Donc la guidance, c'est la science. Et les bonnes œuvres, la religion de vérité, c'est les bonnes œuvres. Hein? Les œuvres qui sont selon la charia, selon la sunna. C'est ces deux choses-là que tu dois connaître et que tu dois appliquer. Et donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec ces deux choses, ensemble. Il n'a pas juste été envoyé avec une seule des deux. Il n'a pas juste été envoyé avec la guidance, c'est-à-dire la science. Il n'a pas seulement été envoyé avec les bonnes œuvres. Il a été envoyé avec les deux. Et celui qui suit cette voie-là, eh bien, il suit la bonne voie. Hein? Celui qui, il est en réalité sur la voie de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que leur compagnie. Ensuite, le cheikh il dit, فَالْحَاصِلُ أَنَّ اتِّبَعَ السِّرَاطِ السَّبِيلُ وَالسِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يقتضي مخالفة الطائفتين ولهذا قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني غير الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين أي غير صراط الضالين كما جاء في الآية الأخرى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فلما كان صراط الله هو المستقيم اقتضى ذلك مخالفة الفريقين المغضوب عليهم والضالين ولأن كلا الفريقين في النار قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم والضالون والمغضوب عليهم كلاهما من أصحاب الجحيم صراط الله ينهى عن سلوك طريقهم. Donc le cheikh il dit, donc qu'est-ce qu'on veut dire en résumé, c'est que de suivre le droit chemin, ça implique de contredire les deux groupes qu'on a mentionnés. Parce qu'Allah il nous dit, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et non plus de ceux qui se sont égarés. Donc, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et ni des égarés, c'est-à-dire et ni le chemin des égarés. Et le cheikh il dit que Allah dit dans l'autre verset, le verset 153 dans Surat Al-An'am qu'on a cité déjà, et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous égareront et vous diviseront de son droit chemin. Donc voici ce en quoi vous êtes enjoints pour que vous puissiez atteindre la piété. Donc, étant donné que de suivre le droit chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, c'est le chemin qui est droit, ça implique que tu dois contredire les deux autres chemins, le chemin de ceux qui ont encouru la colère et le chemin des égarés. Parce que les deux chemins de ces gens-là sont des chemins qui amènent à l'enfer. C'est des chemins des gens qui sont dans l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous t'avons envoyé, ça c'est le verset 119 dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit, nous t'avons envoyé avec la vérité comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment, et tu ne seras pas questionné au sujet des gens de l'enfer. Et donc les égarés et les gens qui ont encouru la colère d'Allah, ces deux groupes-là sont parmi les gens de l'enfer. Et le droit chemin d'Allah nous interdit de suivre le chemin de ces gens-là et de prendre leur foi. وهذا الكتاب إنما جاء توضيحا وبيانا للآيات السالفة سالفة الذكر التي تقتضي أن تكون هذه الأمة مباينة لغيرها من الأمم، لا سيما وهي تستمد نهجها من كتاب الوحي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن الطرق ثلاثة لا تخرج عنها، فهي إما طريق المنعم عليهم، وإما طريق المغضوب عليهم، وإما طريق الضالين. Donc le cheikh il dit, donc ce livre il est uniquement venu pour clarifier ces versets qu'on a mentionnés, les versets qu'on a mentionnés précédemment. Et ces versets impliquent que cette umma doit se séparer et se distinguer des autres nations. Et en particulier du fait qu'elle tire sa guidance et sa voix du livre de la révélation et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qu'on sache que il y a trois voies. Il n'y en a pas plus que trois. Il y a trois voies. Il y a la voie qui est la voie de ceux qui ont été graciés par Allah et qui ont reçu la grâce d'Allah. Donc il y a cette voie-là qui est la voie du juste milieu. Puis il y a la voie des gens qui ont encouru sa colère et la voie de ceux qui se sont égarés. Il y a seulement ces trois voies-là, il n'y en a pas une autre. Ok ? Et le cheikh il dit والحقيقة أننا حين نقول بأنه ينبغي على الأمة المحمدية أن تتميز في صفاتها الدينية والدنيوية وأن تخالف طريق المغضوب عليهم والضالين فإن قولنا هذا يغضب دعاة العلماء ودعاة حوار الأديان وغير ذلك من هذه الطروحات لأنهم إنما يقصدون من وراء هذه الدعوات طمس الإسلام وجعله تابعا لا متبوعا وهذا يقتضي من المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يعتزوا بدينهم وبشخصيتهم الدينية وأن لا يخدعوا لدعاية أعدائهم فالله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Et ça c'est très très important, qu'est-ce qu'il mentionne ici, hein? Subhanallah, muhimmun jiddan, très important. Le cheikh il dit la réalité c'est que lorsqu'on dit que la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit se distinguer dans ses caractéristiques religieuses et dans ses caractéristiques de la dunya. Elle doit se distinguer dans les affaires religieuses, dans les affaires de la vie, de qu'est-ce qui a rapport avec la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et des égarés. Eh bien, elle doit contredire ces voies-là. Et donc, quand on dit ça aux gens, quand on est en train de dire aux gens qu'on doit se distinguer de suivre l'exemple des juifs et des chrétiens et de ceux qui leur ressemblent, ça met en colère les gens qui invitent et qui appellent aujourd'hui à la mondialisation. C'est quoi la mondialisation? La mondialisation, c'est ceux qui appellent à dire aux gens que tout le monde entier doit être un seul village, un seul pays, un seul gouvernement. Mais le problème, que ça doit être un seul gouvernement basé sur sur le kufr. Eux, ils veulent unir le monde entier sur un seul gouvernement qui est basé sur le kufr et le shirk et la laïcité et l'égarement. Donc ils essaient de détruire toutes les croyances, toutes les religions et en particulier bien entendu l'islam, parce que l'islam c'est la religion d'Allah, toutes les autres religions ils les ont déjà détruites il y a bien longtemps. C'est seulement l'islam aujourd'hui qui crée une résistance contre leur système et contre leurs idées et contre leur voie. Il n'y a pas d'autre religion aujourd'hui qui oppose ces gens-là. Donc, ils attaquent l'islam plus que toutes les autres religions. Et on le voit ça partout, dans le monde entier aujourd'hui. Dans les pays, non musulmans, et même parfois dans les pays musulmans, ils sont en train d'essayer de combattre, dans les pays musulmans, ils combattent la voie, il y en a des prophètes, la voie de la salafia. Ils essaient d'écraser la sunna, parce qu'ils savent que la sunna et la salafia, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Donc ils essaient d'éloigner cette voie-là, les gens de cette voie-là. Dans les pays de kofr, ils essaient d'éloigner les gens de l'islam et de la voie des salafis, et de la voie des salafis. C'est ça qu'ils font partout, en France, partout ailleurs, en Angleterre, au Canada, ailleurs même. Tu les vois s'unir entre eux contre l'islam, contre les musulmans. Et avec leurs idées de laïcité, le but c'est justement d'essayer d'écraser les religions. De dire que, premièrement, de dire quoi ? Toutes les religions sont égales. Toutes les religions sont pareilles pour eux. Puis après, de dire, puisqu'elles sont toutes pareilles, vous les musulmans, vous n'avez pas de privilèges, vous n'avez rien de spécial, donc vous devez vous écraser, vous effacer, comme toutes les autres. Non, l'islam c'est pas comme les autres religions. Et même si vous interdisez aux autres de pratiquer leur religion ouvertement ou publiquement, ou de montrer leur religion, ça s'applique, ça c'est leur problème. Nous ça nous intéresse même pas et ça nous inquiète pas. Si vous voulez les interdire, interdisez-les. Mais nous, on ne s'arrête pas de pratiquer notre religion. Nous, notre religion, c'est le haq, c'est la vérité. Donc, on ne va pas s'arrêter de la pratiquer pour plaire à quiconque. Et on s'en fout de ce que vous faites. Et ça nous est complètement égal. Qu'est-ce que vous pouvez penser de ça, hein? On suit la guidance d'Allah, qu'Allah nous a révélée. Donc, al-awlama, c'est ça. C'est de vouloir unir toutes les religions ensemble, de dire à toutes les religions, vous êtes toutes pareilles. Vos voies sont différentes, mais vous allez tous vers Dieu, donc il faut travailler ensemble et être unis et vous aimer entre les religions et être ensemble et aller dans vos croyances et tout ça, dans toutes vos faussetés. Unissez-vous dans vos religions. A'ouzoubillah. L'islam ne peut pas s'unir avec le shirk. L'islam ne peut pas être associé avec le kufr et le shirk et l'égarement, hein, et l'ignorance et l'idolâtrie. Et toutes ces autres histoires-là. Donc, on ne peut pas. Donc, les gens qui appellent à la mondialisation détestent l'islam. Ils sont fâchés quand on appelle au tawhid et quand on explique aux musulmans qu'on doit se distinguer des koufars et des mouchriquins et des juifs et des chrétiens. De même que les gens qui appellent à qu'est-ce qu'ils appellent le dialogue entre les religions ou à l'unification entre les religions, comme les francs-maçons et les autres qui suivent leur tendance. Hein? Et tu les vois, ils appellent, ils disent oui, toutes les religions doivent s'unir, toutes les religions sont ensemble, on va tous vers Dieu, même si on est différent, on a tous une voie qui est correcte, comme par exemple Tariq Ramadan et d'autres. Tu le vois, Tariq Ramadan, quand il défend le shirk et le kouf des juifs et des chrétiens, il met plus d'énergie, d'effort à défendre le kouf et le shirk que de parler même, de défendre la charia d'Allah et le tawhid ou quoi que ce soit. Il ne connaît rien de ces choses-là, lui. Hein? C'est un soufi et quand il parle comme un franc-maçon, la même manière. Et pas juste lui, il y en a plein comme ça. Hein? Des musulmans qui se prennent, des gens qui pensent qu'ils peuvent être musulmans et franc-maçons en même temps, ou musulmans et laïcs en même temps, ou musulmans et démocrates en même temps. Toutes ces voies-là, que ce soit la démocratie, la franc-maçonnerie, les droits de l'homme et toutes ces autres idéologies-là, sont établies dans un seul et unique but, et c'est de combattre l'enseignement des prophètes et la voie des messagers d'Allah et le tawhid d'Allah, et de détruire l'enseignement que les prophètes nous ont transmis et révélé. Donc ça, c'est très dangereux, et eux, ils n'aiment pas qu'on appelle à la vérité. Ils veulent tout vain pour nous arrêter. Hein? Donc, le cheikh, il dit, le but derrière tous ces slogans et tous ces discours, hein, le but derrière ça, c'est quoi? C'est d'effacer l'islam et d'écraser l'islam et de faire en sorte que les musulmans soient derrière des suiveurs, et non pas des gens qui sont à la tête et qui orientent et qui guident les autres. Et donc ça implique de la part des musulmans que les musulmans fassent attention et que les musulmans soient éveillés et que les musulmans prennent de la fierté dans leur religion, qu'ils aient une fierté, une personnalité religieuse qui est distingué et qui se montre et qui n'a pas peur, qui est fier de sa foi, qui est fier de sa religion, pas des musulmans qui sont peureux, qui sont qui se cachent, qui ont honte, qui ont peur hein, de montrer leur attachement et leur foi hein, cette religion. Ça c'est très très important. Et en même temps aussi de pas se laisser tromper par les slogans et par les propagandes des ennemis de l'islam. Hein? Donc ils ont poussé des groupes d'égarement et des groupes d'égarés parmi les Khawarij et autres à commettre des actes de terrorisme dans le monde, après de mettre ça sur le dos des musulmans ou essayer même de mettre ça sur le dos de la salafie et des salafis. Et ça c'est pour détruire hein, justement l'attachement que les musulmans ont en leur religion et en l'islam, pour les faire se sentir mal et les faire se sentir coupables hein, et pour détruire cette fierté qu'ils ont de leur islam, parce que l'islam est innocent de ce genre d'actes de terrorisme hein, et de ce genre d'extrémisme. Mais là ils ont réussi à jouer avec ça, et maintenant l'idée qu'ils ont maintenant les kuffars et les musulmans faibles dans leur foi et dans leur compréhension de l'islam, c'est ça. Alors regardez maintenant, si on pratique l'islam, on va être accusé, on va être traité d'extrémiste, d'intégriste, de terroriste. Donc on va laisser tomber la pratique de l'islam et yani, on va cesser de montrer notre religion. Et tu les vois commencer de plus en plus à essayer de s'effacer, effacer leurs pratiques, alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est au contraire étudier notre religion, réaffirmer notre attachement à la vérité de l'islam, aux enseignements du Coran et de la Sunna, et de la compréhension des salaf al-salih, et de rester fier et fermement attaché à cette voie-là, et de réfuter les égarements de ceux qui ont dévié parmi les musulmans, parmi les différentes sectes, et de réfuter également les kuffars et les mushrikines qui font partie des différentes religions, et de leur montrer et de leur clarifier la véracité du message de l'islam et des prophètes. L'enseignement des prophètes, na'am. Oui, mais c'est ça. Le haqq, c'est pas juste dire le mot avec la bouche. Le haqq, il faut le suivre vraiment. Il faut connaître qu'est-ce que c'est, premièrement, le haqq. Si tu connais pas la vérité, comment tu peux dire que tu es sur le haqq? Il faut le connaître en premier, puis une fois que tu l'as connu, le suivre. Mais si tu le connais, puis tu le suis pas, ça vaut rien. Hein? Subhanallah, adib. Le cheikh il dit justement le verset 120 dans Sourate Al-Baqarah, ça c'est un verset puissant pour réfuter les koufars et pour réfuter ces gens-là qui veulent suivre l'exemple des chrétiens. Et quand tu dis ce verset-là, il y en a même parmi certains égarés qui se mettent en colère, mais c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et dit au Mohammed que la guidance, c'est la guidance d'Allah. Hein? Dit que la guidance, c'est la guidance d'Allah. Inna hudallahi huwa al-huda. Il n'y a pas d'autre guidance que la guidance d'Allah. Hein? Et si tu suis leur passion, après ce qui t'est venu comme science, eh bien tu n'auras en dehors d'Allah aucun allié et aucun protecteur, aucun défenseur. Si tu suis leur passion, c'est-à-dire la passion des juifs et des chrétiens, et leur désir, après ce qui t'est venu de la connaissance du Coran et de la Sunna, alors tu n'auras en dehors d'Allah aucun allié et aucun protecteur. Il n'y a personne qui pourra te protéger, il n'y a aucune personne qui pourra te défendre. Et donc, une fois, hein, je me rappelle quand j'ai cité ce verset-là, et Tariq Ramadan était en colère, il s'est fâché. Il a dit non, ce verset-là, il faut pas, hein, parce que les gens ont été hein, quand ils ont entendu le verset, ils ont été contents, hein, ils se sont réjouis de ce verset, parce qu'il y avait des gens dans la salle qui disaient des shubuhat et tout. Quand j'ai cité le verset, les croyants se sont réjouis, les musulmans étaient contents. Et là après, subhanallah, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fâché, il s'est mis en colère, il a dit non, c'est pas ça la compréhension de ce verset. La compréhension de ce verset, pour dire, en voulant dire non, c'est pas particulier aux juifs et aux chrétiens ou je sais pas quoi. J'ai dit, Ajib, comment quelqu'un peut, comme, de cette façon-là, parler comme nier ça et décider comme s'il veut, il veut interpréter le Coran juste pour, yani pour satisfaire les juifs et les chrétiens et pour pas les faire sentir les faire sentir mal. Oui, les soufis, parce qu'il fait partie des soufis, il fait partie des soufis. Hein. Après, le cheikh il dit فَالْأَصْلُ أَنْ لَا نَتَّبِعْ, et on va lire ce dernier passage là, après on va s'arrêter. Il dit وَالْأَصْلُ أَنْ لَا نَتَّبِعْهُمْ لأنه حتى لو اتبعناهم في بعض الأمور فإنهم لا يرضوا إلا أن نطيعهم في كل شيء حتى نتخلى عن ديننا نهائيا ومصداق ذلك قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهذا أمر يجب على المسلمين أن يتنبهوا له فهذا هو مقصد الشيخ من موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو أن لا تذوب الأمة الإسلامية في الأمم الأخرى وأن لا تسايرها فيما يضر بدينها وعقيدتها وإنما الواجب عليها أن تتمسك بدينها وعقيدتها قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون ثم وقال سبحانه كذلك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذه الأمة لها مكانتها لكونها على شريعة وطريقة, فإن تركتها ضاعت وضيعت نفسها, فلا مجال لبقاء عز هذه الأمة ومكانتها إلا بالتمسك بهذا الدين والحذر من دعايات الضلال والحذر من الخداع والمكر الذي يروجه الأعداء ويدعون إليه في كل مكان في كل زمان ومكان. نعم. Donc le cheikh il dit la base, à la base c'est qu'on doit suivre, à la base c'est qu'on ne doit pas les suivre, on ne doit pas suivre les juifs et les chrétiens, et que le cheikh il dit, et même si on les suivait dans certaines affaires, ils ne seraient pas satisfaits de nous jusqu'à ce qu'on les suive dans tout. Et jusqu'à ce qu'on soit complètement sorti de la religion au complet. Donc si tu les vois par exemple, maintenant ils interdisent aux femmes musulmanes de porter le hijab, ou de porter le niqab, ou d'ici et ça. Ça c'est juste des éléments comme ça. Ils sont juste en train d'essayer de nous éloigner petit à petit de chaque aspect de notre religion. Mais ils ne seront jamais satisfaits tant que les musulmans ne seront pas devenus koufars comme eux complètement. Hein? C'est ça ce qu'ils veulent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا. Ils souhaiteraient que vous soyez mécréants comme ils ont mécru eux-mêmes pour que vous soyez égaux. Ils veulent qu'on soit égaux, mais dans le kufr. Ils veulent qu'on soit égaux dans le shirk. C'est ça ce qu'ils disent dans leurs enseignements. Quand ils appellent à l'égalité, ils appellent en fait à ce qu'on soit égal dans le coffre et qu'on soit tous pareils dans le coffre. Et c'est ça leur but. Et selon eux, on n'est pas libre tant qu'on n'est pas des koufars. C'est ça ce que ça signifie en fait. Parce que c'est se libérer de la foi, se libérer de la religion, se libérer du Coran et de la Sunna et de la révélation des prophètes. C'est ça ce qu'ils parlent lorsqu'ils parlent de liberté. Pas la liberté de suivre la religion, c'est de se libérer de la religion. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Mais il y a beaucoup de musulmans naïfs qui ne comprennent pas ces choses-là et qui s'imaginent qu'on peut défendre l'islam en se basant sur les principes des koufars et en se basant sur leurs idéologies. Leurs idéologies ont été créées pour combattre la vérité, pour combattre l'islam. Donc ils ne vont jamais tolérer qu'on défende l'islam en se basant sur des idéologies qu'ils ont inventées eux-mêmes pour justement la combattre, cette vérité. Et il y en a des hypocrites, des munafiqoun, parmi les gens qui viennent des pays musulmans, qui viennent vivre chez les koufars et qui défendent leurs idées et leurs croyances et leurs pratiques plus que les koufars eux-mêmes. et qui dénigre les musulmans et les insulte, et insulte l'islam et le Coran et la Sunna. Et ils pensent qu'ils sont acceptés et aimés des koufars, alors que les koufars les utilisent comme des papiers hygiéniques. Et quand ils ont fini de les utiliser, ils les jettent, hein, comme on jette les papiers hygiéniques. Et on sait où est-ce que ça va par la suite. Donc, ces gens-là, Allah al-Musta'an, ils vont être comme Allah les a décrits dans le plus bas fond de l'enfer, dans les profondeurs les plus basses de l'enfer, au jour de la résurrection. Peu importe que ce soit des laïcs, des démocrates ou des féministes, ou peu importe. Parce que c'est ça leur discours et c'est ça leur religion, c'est ça qu'ils ont choisi comme croyance et comme voie, de combattre l'islam et les musulmans et la salafia et la voie des prophètes et la sunna. Eh bien, ils auront le résultat au jour de la résurrection. Excepté s'ils se repentent à Allah et qu'ils reviennent au droit chemin et qu'ils commencent à suivre la vérité. Eh non, la repentance, Allah il pardonne tous les péchés. Si tu te repens, il accepte ta repentance. Tu demandes pardon et tu corriges ce que tu as fait de mal et tu reviens à la vérité. Allah il sera satisfait de toi par la suite. Et le cheikh il dit ensuite, donc Allah il l'a dit clairement dans le verset, ils ne seront jamais satisfaits. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et ça c'est un verset quand on le lit. Eh bien, ça fait en sorte que le musulman, il doit donc faire attention à cette chose-là. Et c'est ça le but du cheikh en parlant de ce sujet dans le livre. Hein, le livre qu'on est en train de lire, c'est justement pour que la Ummah islamique ne fonde pas parmi les autres nations et qu'elle commence pas à se laisser aller à suivre l'exemple des autres religions, de suivre ce qui est nuisible dans leurs croyances et dans leurs pratiques. Mais le devoir et l'obligation pour les musulmans, c'est plutôt de s'accrocher à sa religion, de s'accrocher à l'islam et la aqida de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran au prophète, il dit accroche-toi à ce qui t'a été révélé, parce que tu es sur le droit chemin. Et c'est certes un rappel pour toi et pour ton peuple. Et vous allez certes être questionnés. Hein, vous allez être questionné à ce sujet-là, au jour de la résurrection. Vous allez être responsable. Et Allah, donc ça c'est le verset Az-Zukhruf, dans sourate Az-Zukhruf, le verset 43 et 44. Donc, le cheikh il dit, il cite les versets, dans sourate Al-Jathiyah, verset 18 et 19. Al-Jathiyah, c'est l'agenouillé. Ça dit, puis nous t'avons mis sur la voie, hein, nous t'avons mis sur la charia, c'est-à-dire sur la voie de l'ordre, du commandement. Alors suis-la, et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne pourront te profiter en rien d'Allah. Hein? Ils ne pourront rien te profiter, hein, en dehors d'Allah. Et certes, les injustes sont alliés les uns des autres, et Allah est l'allié des pieux. Donc cette Ummah, elle a son degré, elle a son statut, elle a sa position, parce qu'elle est sur la charia d'Allah, parce qu'elle est sur la voie d'Allah. Et si elle délaisse la voie d'Allah, et qu'elle la perd, et qu'elle la laisse, hein, et qu'elle la gaspille, eh bien elle s'égare et elle se perd elle-même. Et donc il n'y a pas de façon pour que cette Ummah garde le statut et la puissance dans laquelle elle est, excepté qu'elle doit s'accrocher à sa religion. Et donc, il faut donc faire garde, prendre garde et avertir contre les fausses propagandes d'égarement et les propagandes et les tromperies et les ruses et les complots que propagent les ennemis de l'islam. Hein? Et auxquels ils invitent et ils appellent les musulmans et les gens dans tous les lieux, dans tous les endroits et à toutes les époques. Donc ça c'est très très important. On va s'arrêter ici, hein, pour aujourd'hui, et on continuera ça la semaine prochaine. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.